Théologie naturelle, 25 novembre 1982, Rimont, Père Philippe.
Nous allons continuer d'entrer dans la position de Saint Anselme. C'est pas très commode, je comprends très bien, surtout quand on n'a pas lu les écrits de Saint Anselme. Je ne vous demande pas de les lire tout de suite, vous les lirez un jour dans votre vie, parce qu'il faut les avoir lus. Alors je ne veux pas insister trop, le Monologion qui est un premier essai, on voit très bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme un premier essai de montrer à ce petit novice qui est tenté comment l'affirmation de l'existence de Dieu peut se faire. Et alors progressivement, et c'est ça qui est touchant du reste, de voir comment Saint Anselme veut arriver de plus en plus à lui confirmer que l'affirmation de l'existence de Dieu, elle est rationnelle. C'est ça. Et c'est la place de Saint Anselme à ce point de vue-là. Vous voyez, c'est, il y a chez lui un désir de pousser le plus loin possible cette capacité de l'intelligence à l'égard de cette affirmation « Dieu existe ». Alors, ce qui est très difficile dans Saint Anselme, c'est de bien faire la distinction qui se fera après, que Saint Thomas fera avec une maîtrise extraordinaire, alors que Saint Anselme ne la fait pas avec cette maîtrise. Il faut bien voir que dans Saint Anselme, les deux aspects, la foi et la recherche de l'intelligence, sont très très liés. Saint Anselme ne cesse de dire, il est croyant. Donc il ne part pas du tout d'un point de vue purement philosophique. Du reste, est-ce qu'à l'époque de Saint Anselme, ça pouvait se faire? C'est très difficile. La foi et l'intelligence sont très très impliquées dedans. Si on ne fait pas ça, on ne comprend pas Saint Anselme. C'est qu'après, on évacuera, on va séculariser l'argument de Saint Anselme. Et séculariser l'argument de Saint Anselme, d'une certaine manière, Saint Anselme prête à ça, vous allez le voir progressivement, que Saint Anselme va vouloir aller jusqu'au bout de son raisonnement intellectuel. Alors, je n'insiste pas trop sur ce que je vous disais la fois dernière, sur ce monologion. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, de fait, il essaie d'arriver à quelque chose qui fait que l'intelligence saisit quand même cette distinction qu'il fait. Là, vous voyez, il y a une argumentation à l'intérieur d'une saisie de foi. Je reprends ce que je vous disais en terminant. Puisse donc que tout ce qui est par un seul, per ipsum unum, sans doute, cet un lui-même est par lui-même. Donc, tous les autres, quels qu'ils soient, sont par un autre. Et lui seul et par lui seul, lui-même. Vous voyez, c'est l'argument de la participation. Mais il ne nomme pas la participation. Quand Gilson parle de Saint Anselme, il nomme tout de suite la participation. Je ne crois pas qu'on doit faire ça. C'est trop délicat. C'est trop délicat parce que la participation prend des significations ensuite très très diverses. Mais est-ce que Saint Anselme est néoplatonicien? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que les néoplatoniciens, Saint Anselme raisonne d'une façon plus simple, d'une certaine manière, plus directe par rapport à ce qui lui est donné. Donc, puisse donc que tout ce qui est par un seul, sans aucun doute, ça c'est sa conclusion, sans aucun doute, cet un lui-même est par lui-même. Donc tous les autres, quels qu'ils soient, sont par un autre, et lui seul est par lui-même. Or, tout ce qui est par un autre est moindre que ce qui est moindre que ce par quoi sont tous les autres. Et qui seul est par soi, c'est pourquoi celui qui est par soi est de tous celui qui est le plus. Alors apparaît ici le maxime omnium est. Ce qui est par soi est maxime. C'est comme ça qu'apparaît ce maxime qui va jouer ce rôle si important. Maxime omnium est. Il existe donc quelque chose d'unique qui seul est au plus haut degré et au sommet de tous les autres. quod solum maxime et summe omnium est. Or, ce qui, de tous, est au plus haut degré, et par quoi est tout ce qui est bon ou grand, et d'une manière générale, tout ce qui est quelque chose, nécessairement doit être souverainement bon, souverainement grand, et sommé de tout ce qui est. Autrement dit, le premier est nécessairement le plus grand, et nécessairement ce qui est maximé. C'est pourquoi il existe quelque chose qui, soit qu'on l'appelle essence, ou substance, ou nature, est ce qu'il y a de meilleur et de plus grand, et sommé de tout ce qui est. Vous voyez sa conclusion, hein ? C'est pas très très précis. Vous analysez ça de près, vous voyez que c'est pas très précis. On voit très bien, il va aboutir à affirmer que Dieu est le sommet, le maximum, le sommet de la bonté, le sommet de l'être et le sommet de la grandeur. Et l'argument, si vous êtes attentif à cette argumentation, vous voyez que cette argumentation repose sur la division que tout ce qui est ou par soi ou par un autre. Et c'est là-dessus que tout repose l'argumentation. Donc cette argumentation, si on est attentif, c'est une argumentation platonicienne. C'est sur la division. Tout repose sur la division. Tout ce qui est par soi ou par un autre. Alors, ça vous tombe un peu du ciel. Hein. Tout ce qui est par soi ou par un autre. C'est très bien, mais est-ce que je peux le dire ? C'est l'argumentation qui est au point de départ du dîner. Le dîner, ça fait partie de la culture. Cette époque-là, Platon, ça fait partie de la culture. Saint-Parcelle est un être cultivé, hein, et très cultivé, c'est évident. La situation qu'il a, ce n'est pas du tout quelqu'un qui ignore la tradition, non. Mais c'est intéressant de voir que pour lui, c'est vraiment cet argument-là qui va être au centre. Tout ce qui est ou par soi ou par l'autre. Pour tenir ça, c'est, je crois, le point de vue le plus intelligible du monologium. Alors, une fois que vous avez saisi cette chose-là, évidemment, tout ce qui est par un autre est moindre que ce qui est par soi, ça va de soi, puisque ce qui est par un autre dépend. S'il dépend, ben, il est relatif. S'il est relatif, il est moindre. Ce qui est par soi n'est pas relatif. Et donc, s'il est par soi, il ne dépend d'aucun, et tous les autres dépendent de lui. Donc, nécessairement, il est sommet, il est maximé, il est premier. Donc, c'est essayer de réfléchir, vous voyez, sur, je crois, la division du père à Youd, qui parle latin, et ce qui est percé. Petite distinction à bien comprendre. Hein. Ce qui est par un autre, et ce qui est par soi. Il est évident que cette division, ce qui est par un autre et par un autre, c'est exactement toute la structure de la participation. Donc, Gilson a raison de dire participation, il a tort parce que Saint-Anselme ne le dit pas. Et si Saint-Anselme ne le dit pas, il y a sûrement des raisons. Alors, on peut dire que c'est parce que Saint-Anselme est simplement dans la culture et qu'il ne veut pas préciser un point de vue philosophique. C'est possible. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus. Je crois qu'il y a quelque chose de plus. On entre vraiment dans le génie de Saint-Anselme, on sent très bien qu'il y a quelque chose de plus. C'est pas tout à fait. C'est pour ça qu'il n'emploie pas la participation. Ne le disons pas. Je crois qu'il vaut mieux ne pas le dire. Alors, c'est ce qui est par un autre, ce qui est par soi. Ce qui est par soi est premier, ce qui est par un autre est second. Ça, c'est évident. Hein. Tout le monde peut comprendre ça. Ce qui est par soi est premier, ce qui est par un autre est nécessairement second. Donc, ce qui est par soi sera maximé. C'est l'idée de dignité par soi. Alors vous voyez la difficulté, pas si on raisonne un tout petit peu, si on réfléchit. Ce qui est par soi, par un autre, donc c'est une division. C'est une division de tout ce qui est. Tout ce qui est. Donc c'est la division des étangs. J'essaie de raisonner au plan philosophique. Hein. C'est la division des étangs. Les étangs sont ou par soi ou par un autre. Vous dites ça au nom de quoi ? C'est parce que dans votre tête, il y a déjà un percé. Il y a déjà un être premier. Parce que quand vous regardez tous les êtres, est-ce que vous avez rencontré un être qui est par soi ? Moi, je l'ai rencontré avec des étangs qui étaient limités. Et je n'ai pas rencontré parmi les hommes, et parmi les étangs que je connais, je n'ai pas rencontré un père, sec, maximum. Non, je ne l'ai pas rencontré, il est invisible celui-là. Alors, cette division, elle présuppose déjà l'affirmation d'un premier. Vous voyez, donc le problème est déjà résolu d'avance. Au sens strict, vous n'avez pas l'expérience d'un être qui est par soi. Vous avez l'expérience d'un être limité. Mais parce qu'il est limité, il dépend d'un autre. Vous n'avez pas l'expérience d'un être par soi. Donc cette division est une division de jugement de sagesse. Ce n'est pas une division de découverte. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a du catholisme là, parce que la distinction entre la voie d'invention et la voie de sagesse n'est pas présente. Vous êtes déjà en présence d'une division qui présuppose un jugement de sagesse. Un jugement de sagesse, c'est une division. Donc, première remarque que nous pouvons faire, je crois que c'est facile à comprendre. Deuxième remarque, qui est dans le même sens, c'est que faire à nous les percer, c'est au niveau donc de la réalité dans son existence. Et le maximé, c'est la manière d'exister. Alors là encore, petite confusion entre la manière d'exister et puis ce qui est affirmé directement. Père a dit et je sais. Le maximum, c'est limité. Donc, je n'insiste pas plus là-dessus. Nous allons tout de suite, si vous voulez voir, parce que c'est peut-être plus intéressant pour vous, c'est de voir alors le raisonnement du proslogion et du liber apologeticus. Le proslogion et du liber apologeticus. Il y a deux choses, vous allez comprendre. Constitué d'un enchaînement de nombreux arguments, la méditation de Ratione Fidei présentée dans le monologion ne satisfait pas pleinement sa conscience. C'est important de bien voir. Il dit ça au début de son proslogion, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je m'en rappelle un second. Ça ne satisfait pas, pourquoi ? Parce que ça ne convainc pas celui qui est tenté. Alors il a dû réfléchir. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et donc la tentation du petit novice aide Saint-Anselme à devenir plus intelligent. Aide Saint-Anselme à montrer que son raisonnement n'est pas suffisant. C'est une espèce de petite chose très intéressante. Donc, constitué d'un raisonnement de nombreux arguments, c'est comme ça qu'il dit, hein. C'est comme ça qu'il présente lui-même, dans le proslogion, le monologion. Le monologion, c'est constitué d'un enchaînement de raisons, de nombreux arguments, la méditation, et c'est intéressant qu'il dit, la méditation du dérationné fidei. La méditation de la raison de foi. Alors ça, c'est très difficile à comprendre. Hein. Le ratio fidei. Ou la ratio fidei. Cette méditation sur la raison de foi. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? La ratio fidei. Traduisez, c'est très difficile à traduire. La ratio fidei. Je crois qu'on peut dire ce qui, dans la foi, est intelligible. Ce qui, dans la foi, peut être saisi par l'intelligence, la ratio fidei. Il dit, là, comprendre. C'est intéressant comme expression, hein. C'est intéressant parce qu'on retrouvera ça dans saint Thomas, ratio. Et la ratio fidei, c'est quoi? C'est, vous savez bien, on cherche l'intelligence de la foi. Chercher l'intelligence de la foi, c'est la ratio fidei. Quand vous croyez à l'existence de Dieu, est-ce intelligible, n'est-ce pas intelligible? Est-il intelligible de croire en l'existence de Dieu? Alors vous dites ratio fidei. Vous voyez la petite conjonction entre les deux, c'est intéressant de voir ça comme chose. La ratio, ça regarde le point de vue de l'intelligence. Et la foi est autre chose. Et alors vous appliquez à la fois l'intelligence qui doit saisir dans l'adhésion de foi ce qui est intelligible. Ça, c'est très Saint-Anselme. C'est pour ça que c'est très intéressant comme expression. C'est très typique. Donc, la méditation des rationnés fidei présentée dans le monogion ne satisfait pas pleinement Saint Anselme. Aussi, se met-il à la recherche d'un argument unique. Ah, c'est très intéressant. Le monologion, nous l'avons vu, c'est pour ça que c'est complexe, il est multi. J'allais dire Saint Anselme tatonne. On voit très très bien, hein. Cherchez si vous avez le temps, si vous voulez vous intéresser, vous voyez tous les arguments qui sont dans le monologion. Ils sont nombreux, hein. Je vous en ai cité deux, trois la dernière fois, si je ne veux pas revenir dessus, c'est pas la peine, ils sont multiples. Le passage de la multiplicité à l'unité, hein, c'est encore très significatif. Hein. Encore, hein, platonicien ou néo-platonicien, c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Aussi se met-il à la recherche d'un argument unique qui, pour être probant, n'aurait besoin de rien d'autre que lui-même. Ah, voilà l'intention de Saint Anselme dans le proslogion. Chercher un argument unique qui se satisfait par lui-même. Un argument unique qui n'ait pas besoin de s'appuyer sur autre chose. Et donc un argument, une ratio qui soit parfaite, qui satisfasse pleinement l'intelligence humaine. C'est de lui ça. Hein. Donc Saint Anselme se met à la recherche d'un argument unique qui, pour être probant, n'aurait besoin de rien d'autre que lui-même et suffirait seul à prouver que Dieu est véritablement. Donc c'est une preuve vraie de l'existence. De l'exister de Dieu, par un argument. Donc, de prouver que Dieu est véritablement, qu'il est le souverain bien, qu'il n'a besoin d'aucun autre, et dont tous ont besoin pour être et être bons. Et tout ce que nous croyons concernant la substance divine. Et comme c'est chargé tout ça, hein. C'est très curieux, ce désir de Saint Anselme, hein, arriver vraiment à prouver l'exister de Dieu, qu'il est véritablement, qu'il est le souverain bien, qu'il n'a besoin d'aucun autre, et dont tous les autres dépendent de lui. Donc c'est la création. Et tout ce que nous croyons concernant la substance divine, tout ce que nous croyons concernant la substance divine, je ne sais pas ce que vous croyez concernant la substance divine, faites une petite méditation là-dessus, et vous verrez que tout ce que vous croyez concernant la substance divine, tout ce que nous croyons concernant la substance divine, c'est tous les attributs de Dieu. C'est tout ce que nous considérons comme l'infini, l'intelligence, la providence, tout ce que vous voyez. C'est cette substance divine, hein, c'est très curieux. La substance divine, là, est comme ce qui va rassembler tout ce que nous croyons par rapport aux attributs de Dieu. Cette préoccupation de Saint Anselme, découvrir un argument unique, semble bien lui être propre. Aucun père, aucun théologien ne l'a exprimé avant lui. Donc là, nous touchons l'originalité de Saint Anselme, parmi tous les pères de l'Église et parmi les théologiens. C'est pour ça qu'il est charnière, Saint Anselme. C'est le grand intérêt de Saint Anselme. Il est charnière entre les pères de l'Église et la théologie. Et il est charnière par le fait qu'il veut trouver un argument qui soit un véritable argument, donc qui est une évidence, qui s'impose à l'intelligence humaine d'une manière telle que l'intelligence ne puisse plus dire que Dieu n'existe pas. C'est Saint Anselme et Descartes, tous les deux, qui ont parlé de preuve de l'existence de Dieu. Il y a une petite parenté entre Saint Anselme et Descartes. C'est pour ça qu'on aime tellement Saint Anselme. Ceux qui rejettent Saint Thomas aiment beaucoup Saint Anselme. On ne va pas l'oublier, non ? C'est vrai, ça. Étienne Borne, par exemple, qui n'aime pas beaucoup Saint Thomas, mais Étienne Borne considère Saint Anselme, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est très curieux, parce que Saint Anselme est reçu à la Sorbonne, alors que Saint Thomas est rejeté. C'est très intéressant de saisir ces choses-là, parce qu'il y a des tas de choses qui sont sous-jacentes là-dessus. Et c'est vrai que c'est le premier qui dit ça, c'est quand même très très fort son désir. Aucun père avant lui ne l'a dit. Remarquons d'autre part, ce que Saint Anselme veut prouver, que Dieu est, donc c'est bien l'existé de Dieu, qu'il est souverainement bien, donc qu'il est le bien, et que de fait, il est le créateur. Saint Anselme désire saisir par la raison ce que la foi affirme de la substance de Dieu. de ce qu'est Dieu, affirmé par la raison, ce que la foi affirme de Dieu, sur la substance de Dieu. Pas sur la très sainte Trinité, hein, mais sur la substance divine. C'est bien cela qu'il cherche. Il le dit très clairement dans la suite de la préface du Proslogion. Alors la préface du Proslogion, pour ceux qui désirent avoir des dates, 1077-1079, hein, vous êtes, vous voyez, le 11e siècle. Hein. J'ai écrit cet opuscule, dit-il, au nom d'un homme s'efforçant d'élever son esprit à la contemplation de Dieu et cherchant à comprendre ce qu'il croit. Intellectus, c'est l'intelligence, fides quirens intellectum, fameuse affirmation qu'il ne faut jamais oublier, que le père Chenu aime tellement, et qui pour lui est l'âme de toute théologie. Fides quirens intellectum. Il faut au moins retenir cette affirmation. Hein. Fides quirens intellectum. C'est-à-dire la foi cherchant l'intelligence. Ce n'est pas le but premier de la foi. Hein. Comprenez bien. La foi cherche la contemplation, mais fides quirens intellectum, ce n'est pas faux comme affirmation. C'est une affirmation qui est très très belle. La foi ne détruit pas l'intelligence, la foi au contraire doit exciter l'intelligence. La foi doit donc permettre à l'intelligence d'aller plus loin. Alors c'est pour ça que c'est très juste de dire « fides quirens intellectum ». C'est Saint Anselme qui dit ça, il ne faut pas l'oublier, ce moine, hein, le moine bénédictin, tout ça est né des moines bénédictins, ne l'oubliez pas, c'est quand même intéressant de voir ça. Comprendre, il ne faut pas dire que c'est Saint Thomas qui le premier s'est mis à... Non, il fallait répondre à Saint Anselme. Et peut-être que la somme est née pour répondre à Saint Anselme. Ça ne m'étonnerait pas du tout, moi, personnellement. Quand on verra Saint Thomas, on lui demandera. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que quand vous suivez attentivement l'évolution de Saint Thomas, vous voyez que Saint Anselme est toujours présent. Tout le temps. Et donc, c'est ce que Saint Anselme a dit, que Saint Thomas, dans le fond de son cœur, ne devait considérer que ce n'était pas juste. Or, Saint Anselme faisait autorité. Il faisait autorité, il fallait répondre à Saint Anselme. Alors pourquoi pas émettre cette hypothèse que je croirais très juste, on ne l'a jamais dite, c'est pour ça que je vous l'ai dit, que la somme théologique de Saint Thomas, c'est pour répondre à Saint Anselme. Saint Anselme a posé quelque chose de tellement profond, qui va tellement loin, que ça exigeait une réponse. Parce que les autres répétaient Saint Anselme. Alors, ça, il faut y réfléchir. Hein. J'ai écrit cet opuscule hein, au nom d'un homme s'efforçant d'élever son esprit à la contemplation de Dieu et cherchant à comprendre ce qu'il croit. Voilà, l'intention s'est dit explicitement, et ça c'est très intéressant. Il s'agit bien de l'intelligence de la foi en vue de contempler. Celui que l'homme désire chercher sans pourtant connaître son visage, celui que l'homme désire chercher, sans pourtant connaître son visage. Il ne s'agit donc pas de comprendre pour croire, mais croyant, il faut chercher à comprendre. Il est moine avant tout, c'est évident, il est moine. Si on est moine, on est croyant. C'est impossible autrement. Donc il est moine avant tout, il est croyant. Mais il est intelligent. C'est un homme. Donc il est intelligent. La première petite révolte de l'homme par rapport au moine. Hein, il veut à tout prix comprendre. Il veut à tout prix saisir. C'est beau ça du reste, c'est très grand. Il y a quelque chose de très grand dedans. Mais je crois que c'est entièrement exact. Hein. Il ne s'agit donc pas de comprendre pour croire, mais croyant, il faut chercher à comprendre. Et à comprendre autant que lui-même le permet. Lui-même, c'est-à-dire Dieu. À comprendre que Dieu est, comme nous le croyons, et qu'il est ce que nous croyons de lui. Donc tout ce que nous croyons de la substance divine, il faut essayer de le comprendre. Il importe de bien saisir cette intention de Saint Anselme pour analyser correctement son argument. Autrement, on ne saisit pas du tout. Cette argumentation vise à nous faire comprendre que Dieu est, partant de ce que nous croyons qu'il est. Nous croyons qu'il existe et nous essayons de comprendre qu'il est. Alors, au bout d'un certain temps, il se laisse prendre à son jeu. Cette fois-ci, il s'est dit, vous voyez, il y a une adhésion de foi à Dieu est. Une adhésion de foi. Dieu existe, bien évident, c'est une adhésion de foi, c'est le contenu. Il s'agit de saisir le contenu intelligible de cette affirmation de foi pour que l'intelligence soit satisfaite dans cette affirmation de foi. Nous passons donc de l'affirmation de foi au contenu intelligible qui satisfait l'intelligence. Alors vous voyez qu'au bout d'un certain temps, on se demandera si on peut isoler ce contenu intelligible de l'adhésion de foi. Et c'est à partir de là que naîtra l'ontologie. Je ne dis pas que c'est Saint-Anselme, puisque Saint-Anselme est très net, dire qu'il faut partir de l'adhésion de foi. Cette argumentation, donc, du proslogion, comporte trois moments. Premièrement, quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existe, et dans l'intelligence, et dans la réalité. Alors, ça, il a découvert ça dans une méditation très intense. Hein. Il a beaucoup réfléchi là-dessus. Alors, première affirmation, et ça, c'est commande tout le reste, hein, c'est la grande affirmation de Saint-Anselme. Ordinairement, on commence toujours ça, on oublie le monologion. Alors que je crois que c'est très important le monologion. Parce que le monologion, vous voyez, c'est les petites premières touches. On ne pourrait pas comprendre tout de suite le proslogion. S'il n'y avait pas le monologion qui montre des touches multiples par lesquelles on va pouvoir aller vers l'existence de Dieu. Donc, premier argument. Du moins, premier moment de son argumentation. Quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existe. Et dans l'intelligence, et dans la réalité. Vous comprenez? Si vous pensez quelque chose qui n'existe que dans la réalité. Non, vous pensez quelque chose qui n'existe que dans l'intelligence. Ce quelque chose qui existe dans l'intelligence et qui existe aussi dans la réalité est plus grand s'il existe dans l'intelligence et la réalité que s'il n'existe que dans l'intelligence. C'est juste l'inverse de Kant. Mettez les deux positions de Kant et Anselme ensemble. Ça c'est clair mutuellement. C'est facile à comprendre ça. Une réalité que vous pensez, la plus grande réalité qui peut exister. Imaginez la plus grande réalité qui peut exister. Et on vous dira, cette réalité n'existe que dans votre intelligence. Ou bien vous direz, mais cette réalité, puisque c'est la plus grande, donc nécessairement elle est dans l'intelligence et dans la réalité, parce que si elle était dans l'intelligence, elle serait moindre que si elle existe dans l'intelligence et dans la réalité. J'espère que vous avez pigé ça. Quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existe, et dans l'intelligence et dans la réalité. Vous voyez, là encore, procédé de division. Très intéressant de voir ça, parce que ça, c'est le point de départ de la dialectique. C'est la division qui te commande tout. Deuxièmement, on ne peut pas penser que ce quelque chose n'existe pas. La première affirmation, c'est le chapitre 2, ici c'est le chapitre 3. S'il en est ainsi, comment se fait-il que l'on ait besoin d'un argument? Autrement dit, comment peut-on penser que Dieu n'existe pas? Chapitre 4. Si vous pensez Dieu, Dieu c'est la réalité la plus grande que vous pouvez penser. Vous ne pouvez pas penser une réalité plus grande que Dieu, quoi, si vous pensez Dieu. Penser Dieu, c'est penser la réalité suprême. La réalité la plus grande qui soit. Donc, si vous pensez Dieu comme étant la réalité la plus grande qui soit, cette réalité nécessairement existe. Puisque si elle n'existait pas, vous pourriez penser une réalité plus grande. Puisque ce serait une réalité que vous pensez et qui existe. Vous allez voir, hein, essayez de comprendre ça, parce que c'est toute l'argumentation de Saint-Anselme. Le premier moment qui constitue l'argument proprement dit se résume de la manière suivante. Donc ça, c'est en quelque sorte la majeure, si vous voulez. Hein. Grande affirmation. Nous croyons que Dieu est quelque chose de tel qu'on ne peut rien penser de plus grand. Là, on est tous d'accord. La signification du mot Dieu, c'est vrai. Nous croyons que Dieu est quelque chose de tel qu'on ne peut rien penser de plus grand. Si pour Saint-Anselme cette affirmation semble ne poser aucun problème, il n'en va pas de même alors de l'adversaire. Hein. Gonilon qui est l'adversaire. Hein. L'adversaire est là à côté. C'est pour ça qu'il y aura un troisième livre après, le Liber Apologeticus, en face de Gonilon. Gonilon, c'est celui qui est là à côté, qui est l'antimoine, et qui est là à côté pour justement s'opposer à ce que va dire Saint Anselme. Pour Saint Anselme, ça va de soi. Un bon moine, il est tellement avec Dieu que Dieu, si je cherche à signifier ce que c'est Dieu, c'est évidemment la réalité la plus grande qu'on puisse penser. Vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas penser une réalité plus grande que Dieu. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Or, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. C'est l'insensé qui dit ça, c'est le psaume. Hein? Dieu n'existe pas. L'incipiens dixit in corde suo deus non est. Ça, c'est une des phrases qui joue un rôle très important dans la théologie du Moyen Âge, hein, l'incipiens, l'insensé dit Dieu n'existe pas. Serait-ce donc qu'une telle nature, telle qu'on en peut penser le plus grand, n'existe pas? Parce que si vous dites Dieu, vous pensez tout de suite la réalité la plus grande qui soit, et vous dites que cette réalité la plus grande qui soit n'existe pas, mais c'est contradictoire. Donc, dire que Dieu n'existe pas, c'est contradictoire. C'est pour ça que c'est l'insensé qui dit ça. Mais quand il entend ce que je dis, quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand, l'insensé comprend ce qu'il entend. C'est des intelligents. L'insensé comprend intelligit ce qu'il entend. Et ce qu'il comprend, et dans son intelligence même, s'il ne comprend pas que cela existe. Puisqu'il le reçoit dans son intelligence, donc c'est dans son intelligence. Car le fait qu'une réalité soit dans l'intelligence, et le fait de comprendre que cette réalité existe, sont deux choses différentes. Comprendre et affirmer qu'elle existe sont deux choses différentes. L'insensé reçoit dans son intelligence Dieu, le mot Dieu. Il reçoit ça, parce qu'il dit que Dieu n'existe pas. Donc quand il dit Dieu n'existe pas, il parle de Dieu. Donc Dieu a une signification pour lui. Or Dieu ne peut pas avoir d'autre signification que la réalité la plus grande qui soit. En affirmant que Dieu est la réalité la plus grande qui soit, donc Dieu est dans son intelligence. Et il est dans la réalité, mais en même temps il dit que Dieu n'existe pas. Donc il est en contradiction avec lui-même. Mais le raisonnement de Saint-Anselme, c'est le problème sur la signification du mot Dieu. Quelle est la signification du mot Dieu? Et quelle est cette signification du mot Dieu? Dès que je crois Dieu existe. Quand je dis Dieu existe, ça a quand même une signification pour vous, le mot Dieu. Ça a une certaine signification, le mot Dieu. Quelle est la signification du mot Dieu? La signification du mot Dieu, c'est la réalité la plus grande qui puisse exister. Or, la réalité la plus grande qui puisse exister, nécessairement existe dans l'intelligence et existe aussi dans la réalité. Autrement, elle n'est pas la réalité la plus grande qui existe. Ça vous fait penser. Hein. L'insensé, celui qui dit Dieu n'existe pas, doit donc lui-même convenir qu'il a dans son intelligence quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand. Puisqu'il parle de Dieu. Autrement, il devrait dire, je ne sais pas ce que ça veut dire Dieu, c'est tout. En fait, ça c'est très fort, vous savez. Là, il y a quelque chose de très fort, parce que quand un athée vous dit Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Dieu? Et vous voyez que l'athée, quand il dit Dieu n'existe pas, met sous le mot Dieu une signification totalement différente que celle que vous dites quand vous dites Dieu existe. Dieu est devenu un mot équivoque entre l'athée et l'autre chose. Et c'est ce que souligne Saint-Anselme. Là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que quand l'insensé parle du mot Dieu, ou il parle de Dieu comme j'en parle, en croyant, comment voulez-vous que l'athée, comment voulez-vous que l'insensé puisse parler de Dieu avec la même signification que moi en tant que croyant? Quand je dis Dieu existe, évidemment le mot Dieu, c'est la signification la plus grande qui puisse... ça signifie une réalité la plus grande qu'il puisse exister. Mais ce dont on ne peut rien penser de plus grand ne peut pas être seulement dans l'intelligence. Là, vous voyez, hein, c'est très délicat le passage entre les deux. Car s'il était seulement dans l'intelligence, on pourrait penser qu'il est aussi dans la réalité, ce qui est plus grand que d'être seulement dans l'intelligence. Si donc, ce dont on ne peut rien penser de plus grand est seulement dans l'intelligence, on est acculé à cette contradiction, cela même dont on ne peut rien penser de plus grand est, de fait, ce dont on peut penser quelque chose de plus grand. Ce qui est évidemment impossible. Puisque vous dites qu'il n'existe que dans l'intelligence. Donc on peut penser quelque chose de plus grand. Donc c'est contradictoire. Je disais la contradiction au niveau de la signification. Il faut donc conclure que sans aucun doute, c'est comme ça que Saint Anselme conclut, hein, je vous ai résumé l'argumentation. Il faut donc conclure que sans aucun doute, quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand, existe-t-il, et dans l'intelligence et dans la réalité. Et je suis parti de la signification du mot Dieu dans l'affirmation du croyant, Dieu existe. Oui, c'est ça son argumentation. Hein. Saint Anselme confirme alors cette argumentation par voie négative. Donc il veut un seul argument, il en donne quand même un second. Ça prouve qu'il n'est pas absolument, absolument sûr, vous voyez. Ce qu'il avait dit avant, hein, faut pas l'oublier, il avait dit un seul argument. Je ne veux qu'un seul argument qui se suffise par lui-même. Ah, il est quand même obligé de confirmer cet argument par voie négative. En montrant qu'on ne peut même pas penser que ce dont on vient de démontrer l'existence n'existe pas. Il est si véritablement qu'on ne peut même pas penser qu'il ne soit pas. Vous ne pouvez pas penser que Dieu n'existe pas. Ça, c'est très fort. C'est très juste, ça. Là, il y a quelque chose de très juste. Vous ne pouvez pas penser que Dieu n'existe pas. Si vous pensez, Dieu, si le mot Dieu a pour vous une signification, au moment même où vous dites Dieu n'existe pas, vous anéantissez le sujet Dieu. Et donc, vous ne pensez rien. Voilà le second moment de l'argumentation. Ce nouveau raisonnement implique un nouveau point de départ. Alors, c'est le nouveau raisonnement qui vient étayer, soutenir le premier. On peut penser qu'il existe quelque chose dont on ne puisse pas penser que cela n'existe pas. Ce qui est nécessairement plus grand que ce dont on peut penser que cela n'existe pas. Forcément, c'est toujours la même chose, hein. Vous voyez, et c'est ça qui est délicat pour nous, c'est qu'on additionne, hein, on fait une addition. Procédé de division et d'addition. Hein. Procédé, dès qu'on divise, on additionne. Hein. Bon, alors, vous divisez, vous additionnez. Vous additionnez deux choses. La réalité pensée et la réalité qui existe en dehors de la pensée. Toute la question, c'est de savoir si ça peut s'additionner. La réalité en tant que pensée est dans l'ordre de l'intentionnalité. La réalité existante n'est plus dans l'ordre de l'intentionnalité. Alors, est-ce qu'on peut additionner l'intentionnalité et la réalité? Alors, tout l'argument pose là-dessus. Tout le nerf de l'argument pose là-dessus. On additionne l'intentionnalité et la réalité. Alors, est-ce que ça s'additionne? Est-ce que vous pouvez additionner une réalité pensée et une réalité qui existe en dehors de la pensée, qui est autre que la pensée. Si vous pouvez les additionner, très bien, l'argument existe. C'est très vrai. Est-ce que vous pouvez additionner? Est-ce que l'intentionnalité ne provient pas de la réalité? Si l'intentionnalité provient d'elle, elle ne fait pas nombre avec la réalité. Alors, vous ne pouvez pas les additionner. Alors, voyez, du fait que vous affirmez la signification de Dieu, c'est impliqué que Dieu existe. C'est impliqué que Dieu existe. Alors, vous essayez de raisonner sur l'intentionnalité et cette réalité qui va s'additionner, qui va faire quelque chose de plus. fait une addition là qui est assez curieuse. Une addition qui par le fait même ne va pas directement. Mais c'est une fois que vous êtes entré dans le raisonnement, vous êtes pris dedans. Hein. Et là, vous dites, c'est vrai, on est devant quelque chose d'assez curieux. Alors, je continue. Ce nouveau raisonnement donc implique un nouveau point de départ. On peut penser qu'il existe quelque chose dont on ne puisse pas penser que cela n'existe pas, qui est nécessairement plus grand que ce dont on peut penser que cela n'existe pas. Ce qui permet immédiatement de conclure, si on peut penser que ce dont on ne peut rien penser de plus grand n'existe pas, celui-ci n'est pas, en réalité, ce dont on ne peut rien penser de plus grand, ce qui est contradictoire. Et c'est toujours la même chose. C'est l'argument inverse, c'est pris de l'autre côté, mais c'est la même chose. Donc, ce quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existe si véritablement qu'on ne peut même pas penser qu'il n'existe pas. Et cela, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, c'est merveilleux. On est parti de la foi, on conclut à la foi. Entre deux, il y a le petit raisonnement qui montre que vous ne pouvez pas. Hein. C'est impossible de dire que Dieu n'existe pas. C'est absolument impossible. Cependant, et si c'est le troisième moment de l'argumentation, puisqu'il est si clair pour un esprit rationnel que Dieu existe plus que tous les autres, comment se fait-il que l'insensé ait pu penser que Dieu n'existe pas ? Alors, vraiment, il est complètement brut. C'est complètement insensé, complètement. Parce que ce raisonnement est si clair, quoi. Alors que l'insensé devrait quand même tout de suite immédiatement comprendre. C'est une évidence, hein. C'est une évidence si vous partez. Dieu existe. Pour répondre à cette question, saint Anselme précise, il faut distinguer deux manières de penser une réalité. C'est intéressant aussi à voir ça. Il faut distinguer deux manières de penser une réalité. Ou bien on pense le mot qui la remplace, ou bien on comprend ce que cette réalité est. Ça, c'est très, très astucieux. Ou vous pensez au niveau des mots, ou vous pensez en vous servant du mot pour atteindre la réalité. Ça, saint Anselme a tout à fait raison. Deux manières de penser. Il y a des gens qui raisonnent sur les mots. Il y a des gens qui se servent des mots pour la réalité. Le réalisme consiste à rejoindre par le mot la réalité. Si vous restez au niveau des mots, mais vous ne pensez pas. Vous n'êtes même pas au niveau de l'intentionnalité, c'est le mot, hein, c'est le mot. Si de la première manière, c'est-à-dire quand on ne pense que le mot, si de la première manière on peut penser que Dieu n'est pas, en ne donnant à ces mots aucune signification, ou en ne leur donnant une signification étrangère, de la seconde, c'est impossible. Donc on dit, l'insensé, il ne pense pas. C'est ça que ça revient à dire. Hein. Donc l'insensé, quand il affirme Dieu n'existe pas, l'insensé ne pense pas. Il est uniquement au niveau des mots. C'est une manière encore plus élogieuse de lui renvoyer la balle, n'est-ce pas ? Nul, donc. Nul en comprenant ce qu'est Dieu ne peut penser que Dieu n'est pas. Nullus intelligens id quod est Deus est potest cogitare quia Deus non est. Personne qui pense Dieu ne peut penser que Dieu n'existe pas, parce que à l'intérieur même de la signification de Dieu est impliquée l'existence de Dieu. Car Dieu est ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Si l'on comprend bien cela, on comprend assurément qu'il est d'une manière telle que même en pensée, il ne peut pas ne pas être. Donc c'est impliqué dans la pensée. C'est impliqué dans la signification qu'il existe. Saint Anselme termine en rendant grâce à Dieu. Car ce que j'ai d'abord cru grâce à un don de toi, je le comprends maintenant grâce à ta lumière de telle façon que si je ne voulais pas croire que tu es, je ne pourrais pas ne pas le comprendre. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'il montre que de fait, étant parti de la foi, la certitude de son intelligence est telle qu'il n'a plus besoin de la foi. C'est extraordinaire, ça. Je relis pour que vous voyez bien, ça c'est de lui. Car ce que j'ai d'abord cru grâce à un don de toi, la foi, je le comprends maintenant grâce à l'effort de la méditation. Vous voyez, car à quoi ça sert la méditation, hein? Ça sert à ça, ça sert à, je ne dis pas épuiser la foi, mais... Car ce que j'ai d'abord cru grâce à un don de toi, je le comprends maintenant grâce à ta lumière. C'est évident, c'est Dieu qui éclaire mon intelligence. De telle façon que si je ne voulais pas croire que tu es, je ne pourrais pas ne pas le comprendre. Donc, même si la foi disparaît, l'intelligence est devant une telle évidence qu'elle est obligée de dire que Dieu existe. Hein? Vous voyez l'astuce, hein? Le raisonnement qu'il donne. C'est un raisonnement très très spécial, très particulier. C'est sur la signification du mot Dieu. Sur la signification du mot Dieu, et puis alors ce fait, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ce fait que l'intelligibilité de la réalité se visionne. Hein? Parce que si je ne vois pas ça, l'argument ne vaut pas. Hein? Tout l'argument repose là-dessus. Alors, les objections de Golinon, obligent saint Anselme à justifier et à expliciter son argumentation. Il le fait dans son Liber Apologeticus. Donc, il y tient, vous voyez. Hein? Il y tient, parce que, il va aller jusqu'au bout. Et vous allez voir que dans le Liber Apologeticus, on va aller encore plus loin. Où l'on trouve ainsi, sous une forme critique, l'ultime manière dont saint Anselme prouve l'existence de Dieu. Ah, ça c'est d'une manière critique, puisque c'est en face de la critique de Gonilon. La grande objection de Gonilon, celle qui détruit l'argumentation à sa base, c'est qu'il est impossible d'avoir un concept de ce qui est plus grand que tout. Il n'est pas bête, hein? Pas bête, Gonilon. Il dit, mais c'est très très bien. La signification, ça regarde un concept. Est-ce que j'ai un concept de Dieu? Est-ce que j'ai un concept de Dieu? Vous voyez, quand vous dites Dieu est, Dieu, c'est le nom. Ce n'est pas un concept. C'est un nom. Un concept, ça regarde la première appréhension d'esprit, la première opération d'esprit. Vous voyez, c'est intéressant parce que, et là, sous-jacent, tout ce qui va venir ensuite pour pouvoir répondre à ça. Je crois que saint Thomas s'est heurté à ça, hein, et on comprend pas bien. Quand vous méditez saint Anselme et que vous voyez que tout le monde est enseignant, qu'est-ce que c'est enseignant? Anselme était vraiment la grande autorité, c'était pas du tout quelque chose de banal, c'est un grand bonhomme saint Anselme, hein, au point de vue du cœur, de l'esprit, et puis ça, alors... Hein, s'attaquer à son argumentation. Gonilon, on le retient à cause de saint Anselme, on n'en parle plus, hein, il n'est pas saint. Ce qu'il est impossible d'avoir un concept de ce qui est plus grand que tout, comme il est impossible d'en avoir un de Dieu, puisqu'on ne connaît pas immédiatement la réalité qui est Dieu, et que l'on ne connaît aucune réalité semblable à partir de laquelle on puisse conjecturer la réalité de Dieu. Pas si bête. Vous n'avez pas de concept de la réalité la plus grande qui soit. Nous pouvons certes penser quelque chose d'un homme qui nous est inconnu et dont nous ignorons même s'il existe, parce que nous avons de l'homme une connaissance spécifique ou générique. Mais Dieu, ou ce qui est plus grand que tous, nous ne pouvons le penser que d'après le mot que nous entendons, ce qui ne nous permet pas de penser quelque chose de vrai. Ce qui est plus grand que tous est une réalité totalement ignorée, que l'esprit s'efforce d'imaginer uniquement d'après les mots qu'il entend. Donc c'est une imagination, c'est un fou de camp. Il faut aller le plus loin possible, vous savez. Aller le plus loin possible, pousser le plus loin possible. Mais il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de concept. On dirait que c'est l'horizon. aujourd'hui, dans un terme moderne. L'horizon, c'est aussi imaginatif, hein, l'horizon. Je peux aller le plus loin possible. Alors on s'efforce de l'imaginer. Uniquement d'après... Je termine. Que l'esprit s'efforce d'imaginer uniquement d'après les mots qu'il entend. Il semble bien que l'objection de Gonilon soit celle-ci. Dieu, nous ne le pensons pas. Nous l'imaginons d'après les mots, d'après les traditions religieuses. Le seul essai, le seul existé, que ce maius omnibus est dans notre intelligence, est un essai imaginaire. Nous reviendrons encore un instant, parce que je vous dis, à cause de l'importance de cet argument, ne croyez pas qu'il est mort, hein, croyez que cet argument vit plus que les cinq preuves de saint Thomas. Ça ne veut pas dire qu'il est vrai, hein.